RCF.
Cette semaine, dans Halte spirituelle, je vous propose un dialogue sur le thème de l'émerveillement en compagnie de Christian Bobin. Écrivain, poète, Christian Bobin est l'auteur de très nombreux livres, j'en cite quelques-uns, Le Très Bas, La Part Manquante, La Plus Que Vive, L'Homme qui Marche, Les Ruines du Ciel et tout récemment, Un Assassin Blanc comme Neige, paru chez Gallimard, et L'Éclat du Solitaire aux éditions Fata Morgana. Christian Bobin, bonjour.
Bonjour.
Merci tout d'abord d'avoir accepté ces entretiens. Nous allons parler de la merveille, de l'émerveillement. Quand on regarde la définition dans le dictionnaire, on peut lire à côté de merveille phénomène surnaturel, miracle, prodige. Est-ce que ça veut dire que la merveille est extraordinaire, selon vous ?
C'est étrange parce que j'aurais pas donné une définition comme ça au mot merveilleux. Si j'essaye de prendre les choses au plus simple, c'est-à-dire à leur point de naissance, ce qui m'émerveille est fait de deux choses, je dirais. Le quotidien, la banalité des jours qui vont, et d'un autre côté, l'extrême fragilité qui est la nôtre, ce qu'on peut appeler notre mortalité, le fait que nous soyons appelés à disparaître tôt ou tard, et à une heure que nous ne connaissons pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je m'émerveille du cortège des choses ordinaires, parce que on se croise, on se salue et on va se quitter un jour ou l'autre. Ce qui m'émerveille, ce n'est pas ce qui est extraordinaire, c'est précisément le tissu même de la vie pauvre, simple et miraculeuse. Elle est miraculeuse d'être là, elle est miraculeuse d'être fragile. Si je puis dire, en empruntant un paradoxe, elle est éternelle d'être passante. Vous voyez ? Prenez, si je puis dire, une fleur, n'importe laquelle, peut-être une fleur des champs, et regardez-la quelques secondes, et vous saurez tout sur cette vie et sur l'autre, sur ce monde et sur l'autre.
Dans un de vos derniers livres, vous dites « Ma vie banale » est plus riche en événements que celle de Napoléon.
Elle est moins sanglante aussi, enfin, j'espère.
Je me suis dit, vous avez une vie d'empereur.
C'est intéressant le nom de Napoléon, parce qu'à le prononcer, ça fait venir... tous les tambours arrivent et les drapeaux troués, déchirés, et le cortège des grands projets et des grands désastres, et le spectaculaire.
Dans la vie de Napoléon, il n'y a que ça, pratiquement.
Oui, il n'y a que ça. Et aujourd'hui, ce qui est vanté, ce qui est célébré, acclamé, c'est le spectaculaire. C'est-à-dire, c'est la puissance qui est très valorisée, qui est très mise en avant, qui est parée de toutes les vertus. Et il faut être efficace, il faut être rapide, il faut faire de l'argent, il faut être lisse. Il faut avoir une beauté presque agressive. C'est ça aussi que je mets dessous ce nom de Napoléon. C'est Napoléon est l'archétype de toutes les puissances que le monde vénère et que notre monde aujourd'hui, plus que tous les autres, peut-être vénère et respecte et ne respecte plus que ça. Alors, si ma vie est plus riche que ça, c'est parce que précisément elle n'est pas spectaculaire. Dans une journée, par exemple, je vais faire des courses parce qu'il faut manger, il faut aller acheter du pain, il faut aller acheter des choses comme ça. Et puis, quoi ? Je vois, allant de cette forêt où j'habite au village le plus proche, pour y trouver mon pain, par exemple, je vois deux chevaux qui sont toujours les mêmes dans un pré. Et je vois leur manière d'être ensemble et leur pudeur à être ensemble. Ils font semblant de ne pas s'aimer ou de ne pas avoir lié une amitié très, très puissante entre eux. Ils font semblant d'être chacun occupé à manger son herbe. En vérité, à quelque heure que je les croise, ils sont à peine séparés par 50 centimètres. Et cette manière d'être, leur amitié taciturne m'éblouit, voilà. Alors voyez, ce sont des choses comme ça qui m'éblouissent. Sur la route, pour aller chercher du pain, deux chevaux qui ont entre eux une amitié angélique. Et ça, c'est pas spectaculaire.
Christian Bobin, vous évoquiez cette amitié entre deux chevaux. Vous parlez dans vos livres de rencontres que vous effectuez, de choses de la nature que vous regardez, des tout petits détails. Et vous dites souvent que c'est dans l'obscur que se révèle la lumière et non pas dans le clinquant. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde bling-bling, un monde où on rêve d'être vu à la télévision. Il y a un décalage dans ce que vous écrivez dans vos livres, justement, là-dessus.
Oui, il ne faut pas devenir une sorte de juge américain. Il ne faut pas distribuer le bien et le mal comme si on avait une main divine. Parce que ce n'est pas mon cas, je n'ai pas cette main-là. Personne ne l'a d'ailleurs, personne n'a jugé. Simplement, moi je vais vous dire, je regarde les écrans comme tout le monde. Bien sûr que le monde, c'est comme de l'eau. Il rentre partout. Vous avez beau calfeutrer vos portes, vous avez beau avoir une vie à peu près tranquille, faite pour l'essentiel de lecture et d'écriture, le monde rentre par les fenêtres, il rentre par les ondes, il rentre. Et c'est bien aussi, parce qu'il faut le voir aussi, il faut voir l'état dans lequel il est, il faut voir la progression des choses, il faut voir si le ciel est plus ou moins couvert, et il est très couvert ces temps-ci.
Oui, mais il faut voir, mais voir quoi exactement? Parce que nous vivons dans un monde d'images où tout est déversé chaque jour.
Il faut voir un petit peu, prélevé comme ça, il faut voir un petit peu, tout est intéressant, tout est intéressant. Il faut surtout, je crois, rien mépriser. Mépriser personne ni rien. Et ça m'est arrivé de voir de telle ou telle émission. Comment dire ça? Quand j'arrête de regarder ce que le monde propose comme divertissement, voire même parfois comme information, la manière dont elles sont mises en forme, j'éteins tout ça et il se passe une chose étrange, une sorte de tristesse. J'ai une sorte de tristesse, un léger chagrin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais emprunter à la philosophe Simone Veil qui dit une phrase que je trouve très très belle parce que très juste. La vie... L'intelligence de la vie, le sens de la vie, oui c'est ça, le sens de la vie, c'est de construire une architecture dans l'âme. Voilà, je crois que c'est ça, le sens même de vivre. C'est d'arriver à porter la vie à son plus haut. Or, ce que je vois dans les écrans, la met à son plus bas. Et c'est peut-être ce chagrin que j'ai, qui n'est pas un jugement, qui est juste un chagrin. Je me dis, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai de la peine même pour les gens, et d'abord pour les gens qui font ces choses-là, parce qu'ils sont humains et ils sont en train de perdre leur visage, comme quelque chose qui passe à la pluie, vous voyez, qui est comme des couleurs qui s'en vont sous la pluie. Il est possible que ces milliers d'images qui nous empêchent à la fin de dormir même, il est possible que ces milliers d'images enlèvent quelque chose du visage et de l'âme des humains. C'est possible, c'est possible.
Pour revenir à la contemplation dont vous parliez au début de ces entretiens, l'image de ces chevaux par exemple, pour s'émerveiller, il faut se décrasser les sens, les cinq sens. C'est une question de corps.
je dirais, c'est juste aller chercher votre pain sans penser à rien. C'est simplement, curieusement, je dirais, c'est ne penser à rien. D'un côté, je pourrais célébrer la pensée. Par un autre côté, je dirais, ce qui est bon et bien, c'est de ne pas penser. C'est de ne pas avoir le cerveau encombré par les échafaudages, des projets, des espérances, des soucis. Et je dis bien même des espérances. C'est-à-dire aller dans cette vie aussi simplement qu'un coquelicot va dans le champ de blé. Il chemine à sa façon, bien qu'enraciné, il chemine, voyez ?
Oui, mais comment acquérir cette simplicité du coquelicot ? Il y a un dépouillement quand même dans ce que vous dites.
Il y a une gaieté, d'abord, si vous voulez. D'abord, il y a une gaieté, je dirais. C'est-à-dire, c'est d'ouvrir sa porte sur la jeunesse de l'air et d'aller et de sortir. Ou alors d'ouvrir un livre. Vous voyez, ça, ce sont les plus belles fêtes. Donc, c'est très simple d'ouvrir sa porte, d'ouvrir un livre, de regarder qui est en face de nous, de regarder nos proches. Ce sont que des choses très simples.
Très simple, et en même temps, nous sentons bien que nous n'arrivons pas à vivre cet émerveillement au quotidien, parce qu'il y a une morosité dans
oui.
nos vies.
Alors, c'est délicat parce que j'ai pas de...
pas de recette.
Non. Non, j'ai pas de recette, j'ai pas de méthode, j'ai pas de... Je crois que le principe de toute sagesse, à supposer qu'il y ait une sagesse, ça serait peut-être de voir, de simplement commencer à regarder là où on est, c'est tout. Regarder là où on est, voilà. Mais regarder vraiment. Parce que c'est très difficile, par exemple, de voir quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on croit connaître. Parce qu'on croit le connaître, on le rend invisible. Essayez de retrouver cette première lumière des premiers jours de la vie, d'être étonné par tout ce qui vient.
Christian Boisbin, dans le mot merveille, il y a une mère qui veille. Et ça tombe bien parce que vous vouliez parler des mères et des nouveau-nés. C'est un sujet qu'on retrouve beaucoup dans vos livres. Qu'est-ce qui vous émerveille dans la maternité ?
Tout. C'est les deux m'émerveillent, les deux qui sont sur la grande scène de la vie, la mère et le bébé. Le bébé, pour moi, c'est quelqu'un de plus profond que tous les penseurs. Oui, c'est quelqu'un de plus profond, de plus subtil, de plus... Il est comme enfoncé comme un clou d'or dans la tapisserie de la vie. Et la mère, elle est... J'en perdrais presque mes mots pour la nommer, parce qu'elle est... Elle est... Une pluie de fleurs de cerisier, une rivière de parfums, une cascade d'étoiles, c'est tout ça, une mère. Et le cœur d'une mère... Et encore mille fois plus, bien plus beau que tout ce que je saurais jamais dire. C'est vrai que là, on est peut-être à la base de ce que vous appelez l'émerveillement, et de ce que moi aussi je peux appeler comme ça. La situation est très simple, et tous nous l'avons partagée. Nous venons au monde, nous ne savons pas ce que c'est que le monde. Nous sommes très petits, de poids, de taille, de... Nous sommes dépendants de tout. Un nouveau-né est dépendant, mais d'absolument tout. Du mouvement d'une brise dans un voilage, du questionnement d'une mouche sur le bout de son nez, de tout. Des rumeurs, des voix dans la pièce à côté. Tout est porteur d'une menace, peut-être, ou d'une bonté. Tout peut nous plonger tout d'un coup dans les ténèbres, en une seconde, et tout peut nous en sortir aussi. Et parfois, les deux choses se font presque dans la même seconde. Et c'est la mère qui a cette toute puissance-là. Je ne me suis pas beaucoup écarté des berceaux, si vous voulez.
Mais vous dites que la vie, l'événement de la vie dans la vie, a la forme d'un berceau. Je ne sais plus dans quel livre vous dites ça, mais...
Et là, quand vous me rapportez cette phrase-là, je ne sais plus non plus dans quel livre elle se trouve, je pense que j'aurais pu dire aussi bien qu'elle... Parce que la forme du berceau est aussi la forme d'un pétale, de rose par exemple, détaché de la fleur. Et tout est stupéfiant au départ. Et moi je pense que tout continue de l'être au fond. Et que simplement il faut nous, dans la mesure du possible, il faut essayer de nous départir de ce qu'on croit avoir appris après, de ce qu'on croit savoir, voilà.
Comment ça se fait que généralement ça se passe, la vie s'offre dès le départ et en abondance, et que pour beaucoup de gens ça s'étiole et avec la vie adulte il y a une espèce de mélancolie et de souvenirs, on idéalise beaucoup l'enfance justement et que ça se serait perdu, cette grâce du don de la vie se serait perdue en cours de route.
Alors je vais vous dire, je ne sais pas tout en la matière mais j'ai une petite idée, c'est que les mères, on leur demande une chose qui est impossible. Elles ont un travail impossible à faire. Et ce travail, comme il est impossible, elles ne réussissent jamais à le faire complètement comme il faut. Et donc elles mettent dans l'âme, dans le corps, dans l'âme de leur enfant, quelque chose comme une mélancolie, comme quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Même la mère la plus comblante, la plus réjouissante, la plus heureuse, même la mère qui entrerait à chaque fois, mais ça n'existe pas puisque c'est pas possible, dans la chambre de l'enfant, gai comme un pinson, même cette mère-là amènerait quand même, à son insu, la petite goutte noire du manque, comme ça.
Mais ce manque, est-ce qu'il n'est pas justement constitutif du désir et donc nécessaire à vivre ?
Et oui, parce que si on est au paradis, on n'en part plus. Si on était au paradis tout de suite, on n'aurait aucune raison d'en partir. Et il est possible que certaines maladies, même mentales, viennent de là, c'est-à-dire certaines étranges maladies comme l'autisme, ou, vous voyez, que ce soit. Ça peut être aussi sous le coup d'un manque trop grand, mais ça peut être aussi sous le charme, mais le charme au mauvais sens, de quelque chose qui vous sidère, qui vous maintient sur place, qui fait que vous ne voulez plus aller ailleurs, parce qu'ailleurs c'est toujours un peu risqué d'aller ailleurs, vous voyez. Les mères, elles sont magnifiques, on dira jamais assez de bien d'elles, y compris de celles qui ne savent pas faire, y compris de celles qui sont débordées, dépassées, accablées. Et celles-là, plus encore, il faudra les jeter sur elles tout l'or du langage, tous les plus beaux mots, et les remercier, malgré tout les remercier, parce que un des plus beaux gestes de cette vie, un des plus beaux gestes, c'est de ramener un drap sur un enfant endormi. Et ce geste, qui est un petit peu la figure même de tous les gestes maternels, ce geste-là, en même temps qu'on tire le drap sur l'enfant endormi, je pense qu'on apaise quelque chose tout au fond des étoiles, même de la plus petite étoile, la plus éloignée de nous, au fond de la Voie lactée. Donc elles ont cette science-là que souvent elles ne connaissent pas, sur laquelle elles ne réfléchissent pas, les mères. Elles ont cette science des autres mondes, elles ont cette vertu-là. Et vous me dites, je reviens à votre question, vous me dites que la vie, après, elle n'est pas toujours dans un émerveillement, mais parce qu'on ne peut pas sans doute être toujours dans cet émerveillement. Et vous avez raison, il faut une part d'ombre pour le désir. Il faut une part, il faut, c'est parce qu'aussi on manque, c'est peut-être parce que je manque de quelque chose que j'écris depuis des années. Sinon, pourquoi écrire ?
Christian Bobin, les enfants, on dit souvent qu'ils ont la capacité de s'émerveiller, mais qu'ensuite ça se gâte, là encore, que c'est quelque chose qui se perd. L'enfant voit directement les choses, les gens, la nature, oui. Ses parents.
Je pense qu'au début de cette vie, on est en dialogue permanent avec Dieu. Appelons Dieu maintenant, juste pour notre conversation, disons que Dieu, c'est la vie de plein fouet. C'est cette vie-là, terrestre, qui nous arrive à flot et devant laquelle nous sommes sans défense. Convenons que Dieu, c'est la totalité de cette vie. Et les nouveau-nés et les enfants en très bas âge négocient directement avec l'Éternel. Ils ont affaire à lui, sans intermédiaire, parce qu'ils sont pauvres en parole, ils sont pauvres en savoir, ils sont pauvres en raison, et ils sont riches de tout le reste, du coup. C'est peut-être pas un hasard si, quand on prend les figures qui ont marqué l'humanité, les figures spirituelles qui marquent l'humanité, François d'Assise, le Christ, d'autres, s'il y a un point commun, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gens qui n'ont pratiquement rien, ou qui ont tout, qui vont, qui se contentent d'aller et qui n'ont rien dans les poches, si je puis dire.
Jésus, d'ailleurs, fait l'éloge de l'enfant pour ça.
Oui, dans une très belle phrase, oui.
Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.
Oui, il y a une autre phrase aussi qui est très belle et un peu terrible. Malheur à celui qui scandalise un enfant. Oui. Mais parce que je pense que c'est ça. Comment dire ?
Ils sont vides de connaissances, de savoir, ils ont un accès direct au réel.
Ils ont un accès direct au réel. C'est comme s'ils mettaient leurs doigts dans la prise de courant de l'Éternel. Voyez ? Là, on voit. Hein. Voyez ? Ça, c'est la vertu de... Comment dire ? Des images. Je suis incapable de parler autrement qu'en image, mais qu'on entende bien que c'est pas une coquetterie, c'est ma façon d'être. Et en plus, pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre l'écriture et la parole, ou idéalement, il ne devrait pas y avoir de séparation. Mais voilà, c'est ça. Ils ont les doigts dans la prise du courant de l'éternel. Et après, le problème, c'est qu'ils retirent leurs doigts. Et donc, on leur apprend des choses à l'école, et ils croient qu'ils en savent des choses. Et puis, il faut devenir monsieur et madame. Alors monsieur et madame, ils n'ont pas beaucoup accès, malheureusement. Parce que plus vous prenez de l'importance, plus vous accumulez de vêtements, de vêtements de savoir, de vêtements d'habitude, plus vous épaississez, et plus le ciel et la vie reculent, s'éloignent. Donc elle est de plus en plus difficile à atteindre.
D'où le dépouillement nécessaire.
D'où peut-être le dépouillement nécessaire, oui. Oui, oui. Mais même si c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, parce que c'est une chose qui est horrible, c'est de faire la morale. Ça c'est horrible. C'est horrible. En plus, c'est inutile. Donc, c'est c'est pas bon des deux côtés, de tous les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, c'est possible que je retrouve. En tout cas, j'essaye, mais c'est pas par la volonté que j'essaye, c'est par quelque chose de plus profond que la volonté. J'essaye de retrouver ces premiers éblouissements de l'enfance. Et en la matière, j'ai des aides. Et les aides, ça va être les pissenlits que je vais voir, ça va être les jets que je peux regarder, dont je peux découvrir les merveilleuses petites plumes bleutées. Ça va être certains livres, ça va être quelques amitiés, ça va être le silence. Vous voyez, j'ai quand même pas mal d'auxiliaires qui m'aident, parce que sinon je m'en sortirais pas, sinon je serais juste un adulte et quelqu'un d'un petit peu engourdi, quoi. Mais j'ai quelques aides comme ceux que je viens de vous nommer, plus quelques autres.
Christian Bobin, vous évoquiez la nécessité de regarder les oiseaux, par exemple, de regarder les fleurs pour vous nourrir et pour vous dépouiller, pour écrire. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur justement cette nature que vous aimez tant. La nature vous appelle ? Elle vous fait signe ?
Ah oui, sans arrêt, sans arrêt. Elle est très... Elle est joliment bavarde. Elle est bavarde comme un... Le bruit, un des bruits les plus... Une amie me racontait un jour que le bruit pour elle le plus magnifique de cette vie, c'est le jour où elle était passée dans une garderie d'enfants, tout petits, à l'heure de la sieste. Il y avait un faible bruit de respiration, il y avait ces petits paquets d'âmes comme ça, qui étaient endormis, assoupis sur les matelas, et de l'ombre de la pièce, en passant... Elle avait entendu c'était comme un petit bruissement comme ça, un petit feuillage de l'éternel qui sortait de là. Et la nature a cette conversation ténue, cette même conversation des tout petits endormis, ce léger bruit comme ça de respirant qui vient vers vous. Elle parle, mais elle parle à lèvres presque closes. Si on est un peu étourdi d'action, de projet, de volonté, on risque de ne pas l'entendre. Je vois et j'entends des choses très étonnantes quand moi je me tais, par exemple à ma table d'écriture. Elle n'est pas très loin d'ici, là où on parle, dans un petit bureau, devant une fenêtre, et de l'autre côté de la fenêtre, il y a un pré. Et quand je m'y attends le moins, il se passe des choses très étonnantes. Je peux vous donner deux, trois exemples, par exemple. Un jour, j'étais en train d'écrire de raturer quelque chose qui ne me plaisait pas, qui était trop littéraire, qui était engourdi de littérature. Je passe du temps à chercher la bonne phrase, la plus proche de celle que j'avais ressentie. Je ne trouve pas, je cherche encore. Du temps passe et je relève la tête et avant de commencer à écrire, j'avais regardé dans le pré une seconde, paresseusement, j'avais vu un chêne. Et puis quand je relève la tête, j'ai eu l'impression très étrange qu'il s'était passé toute une saison. C'est-à-dire que les feuilles de l'arbre étaient presque tombées. Ou... Je l'ai vu tout à fait autrement. J'ai senti, j'ai connu que rien n'était sans mouvement, que rien n'était sans vie, que tout était en train de passer, en train de changer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un autre jour, j'ai vu une merveille encore plus simple, plus sûre à dire, c'est un renard. C'était aussi stupéfiant que de voir Saint Jean traverser le pré pour aller écrire son Apocalypse un peu plus loin. Vous voyez, c'était de la même hauteur spirituelle. Et il avait une sauvagerie qui est ce que j'aime le plus dans cette vie. C'est pas la barbarie, c'est pas la brutalité, c'est pas, je dis bien la sauvagerie. Je pourrais même employer mot pour le Christ, comme je l'imagine.
Qu'est-ce que vous voulez dire par sauvagerie alors ?
Par sauvagerie, j'entends une pudeur, à la fois une prudence, une confiance, tout un alliage très subtil de qualités comme ça, secrètes, et de qualités aujourd'hui irrévélées, aujourd'hui presque méprisées, la pudeur, le secret. Dans ce que j'appelle sauvagerie, il y a un noyau de douceur aussi. Mais justement, une douceur qu'on tient à préserver, qu'on ne veut pas dilapider, qu'on retient près de soi, et qui du coup devient irradiante, qui irradie tous ceux qui peuvent vous rencontrer ou tous ceux qui peuvent la voir. C'est tout ça que je sentais dans ce petit animal brûlant de lumière rousse, comme ça. Ça, c'est la nature. C'est comme un ange. C'est comme un ange qui passait, qui avait affaire... je ne sais quoi, et puis qui passait par là. Et j'ai eu le temps de l'attraper pour le mettre
dans votre livre.
Oui, dans le livre. J'ai eu le temps. Et puis, un troisième élément de la nature, par exemple, je pourrais vous parler des jets qui me... Alors, les jets, vous savez pourquoi ils me plaisent ? C'est parce que pour la plupart des gens ne les aiment pas dans les campagnes. On les appelle des jacques ici.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'ils ont une réputation de... Ils embêtent beaucoup les chasseurs. Parce que ce sont les oiseaux les plus éveillés de la forêt. Donc quand quelqu'un entre dans la forêt, et notamment quand une troupe d'hommes avec fusil et chien entre dans la forêt, les jets fonctionnent comme des guetteurs et préviennent le gibier. Donc je les aime pour cette mauvaise réputation qu'ils ont. Je les aime aussi pour leur disgrâce, parce que peut-être les gens qui nous entendent ne savent-ils pas tous à quoi ressemble un jet. Un jet, ça ressemble à un gros pigeon, un peu lourdeau, un peu... Vous savez, les bombardiers américains. Les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. C'est un gros oiseau, presque sans grâce, et qui se déplace un peu lourdement. Alors ça, c'est pour leur défaut. Mais en France, on leur doit quelque chose de... Et en Europe, on leur doit quelque chose de merveilleux. On leur doit des forêts de chênes, des forêts de chênes centenaires, parce qu'ils se nourrissent de glands. Et ils sont un peu... en plus, ils sont maladroits. Donc souvent, ils laissent tomber les glands qu'ils viennent de prendre. Et c'est d'avoir semé des glands un peu partout. Ils ont du coup semé des forêts de chênes dans toute la France. Donc on leur doit ça. Et puis en plus... Oui, je suis intéressable sur eux. Hein. Et en plus, ils ont caché... sous leurs grandes ailes brunes, des toutes petites plumes bleues qui ont une grâce, mais à mourir. Un bleu comme ça, c'est plus beau que le bleu du ciel même. Et les vitraux de Notre-Dame ne sont rien à côté de ce petit miroitement de bleu comme ça. Vous voyez, le chêne qui vit sa vie en accéléré, le renard qui s'en va écrire son Apocalypse... Et puis les jets, si maladroits, si décriés, voilà, ils me parlent, ils enchantent, ils me donnent envie de parler, ils me donnent envie d'écrire, ils me réjouissent d'être là. Et vous savez, on pourrait multiplier les exemples, hein.
Christian Bobin, vous dites qu'une fleur un arbre, un animal peut devenir un maître de sagesse pour vous.
Oui.
Vous évoquiez le chêne, par exemple, qui accepte de consentir à avoir des bourgeons, à donner des feuilles, et puis donner des glands, et puis l'automne.
Et puis mourir.
Mourir. Mmh. Ce cycle de la vie, l'homme, aujourd'hui, n'aime pas le regarder en face. La nature nous rappelle à notre condition.
Oui et non. Enfin, oui. Au fond, oui. Oui. Par l'hiver, oui. J'écoutais il n'y a pas très longtemps une chanson de Traîné. Et elle avait une grâce, parce que parfois, vous voyez, il peut y avoir aussi une sagesse dans une chanson de Katsou. C'est imprévisible la manière dont la vie s'éclaire. C'est souvent pas convenu, c'est souvent dans des endroits pas bien réputés, ou c'est pas forcément là où on est sérieux que le plus de sens arrive. Et cette chanson de Traîné, elle est ainsi faite qu'elle est faite sur les quatre saisons. Et elle se termine à chaque fois par « c'est la saison de la vie ». Il faut avoir du culot pour dire ça, que l'hiver, c'est la saison de la vie. Et je trouve que c'est vrai aussi. Et je trouve que c'est très, très juste. C'est très, très juste. La vie, elle est partout. Elle est à chaque seconde. Et elle n'a pas une saison préférée, au fond. Mais c'est vrai que l'automne et l'hiver nous apprennent quelque chose, oui. Nous apprennent le... Mais je vais vous dire, je pense qu'en vérité, tout est... Les quatre saisons sont dans chaque seconde que nous vivons, au fond.
Mais vous êtes à la campagne, vous êtes quand même beaucoup au contact de ces réalités-là. On peut se dire que les hommes des villes aujourd'hui n'ont plus accès à ça.
Oui, c'est ou alors juste par des sensations élémentaires, de froid.
Comment on s'émerveille dans une cité du 93 ?
Ces cités aussi mal famées que légères dont j'ai parlé tout à l'heure, dans ces cités, dans ces endroits, il y a toujours une feuille morte qui va arriver. Ça suffira. Et ça suffira pour... Et il y a toujours des herbes folles qui vont pousser entre des dalles disjointes de ciment. Et il y aura toujours les grandes caravanes dans le ciel, des nuages. Parce qu'un brin de nature, c'est toute la nature. Un millième de vie, c'est toute la vie. Il suffit qu'il y ait un enfant un peu rêveur pour regarder le chagrin d'une vitre sous la pluie, dans un HLM. C'est... Bien sûr, on aura moins de chances de voir un renard là-bas. Mais le ciel est quand même là, la lumière avec ses magnifiques accidents, avec ses sautes d'humeur. Je crois qu'il n'y a rien qui soit vraiment sans nature, je pense. Et que simplement, il faut parfois regarder ce qui est devant nous. Le très très peu contient l'infini. Voilà, c'est ce que je crois.
Mais ça se retrouve dans l'homme, tout simplement, dans un visage. Vous parliez de la nature.
On peut dire que c'est la nature humaine aussi. On peut dire que oui, c'est ça. Si vous n'avez pas à disposition devant vous, pour des tas de raisons, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, parce que vous êtes dans une grande métropole, si vous n'avez pas une forêt, regardez quelqu'un, mais regardez-le vraiment en essayant de l'aimer, en essayant d'avoir de l'empathie pour cette personne. Je vais dans les maisons de retraite et je vois, qu'est-ce que je vois on sait très bien dans ce que sont ces endroits, on sait très bien le terrible de ces endroits. Mais j'arrive à voir, à travers les apparences, j'arrive à voir des splendeurs. J'arrive à voir des choses aussi belles que ce qu'on peut voir dans des yeux, dans un visage presque éteint, dans un visage très creusé, raviné, désolé. En regardant bien, on peut voir la même chose qu'au fond d'un ciel d'été ou qu'au fond des rivières qui chantonnent à travers une forêt. Vous avez raison. La nature, qui est une vraie maîtresse d'école, est partout.
Christian Bobin, nous évoquions avec vous la nature, une nature qui se donne généreusement. Alors, elle est très vaste, cette nature, et c'est vrai que vous en parlez beaucoup dans vos livres. J'aimerais justement... qu'on parle des livres. Vous avez déjà évoqué l'écriture, votre petit bureau dans la maison avec en face cette forêt. Il y a des livres qui vous nourrissent parce que vous avez parlé de visages qui vous nourrissent, de fleurs qui vous nourrissent, de la nature qui nourrit et les livres alors.
Oh mon Dieu. Là, il va nous falloir 50 heures. Alors, prenons un exemple. J'avais juste préparé pour notre entretien ça. J'avais préparé une seule chose, un livre que j'ai trouvé chez un brocanteur à Paris. Alors, vous savez, moi, quand je suis chez un bouquiniste, je suis à peu près comme un alcoolique chez un marchand de vin. Hein. C'est-à-dire, c'est très dangereux. Ou comme un joueur invétéré dans un casino. C'est-à-dire que j'ai un amour du papier, des mots. Je pense que la vérité dans la vie, c'est le lien qu'on a avec les gens. Il n'y a pas d'autre chose. C'est le lien d'une personne, de nous aux autres. C'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous perd. Et c'est là où tout se passe. Et c'est là où aussi cette vie a du sens. Elle a du sens dans la manière dont je suis avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut parfois une réserve de silence, il faut une réserve de paix, de tranquillité. Les livres sont des puits de silence, sont des puits de paix, de tranquillité. Chez ce bouquiniste, je vois, je ne sais pas ce que je cherchais. Parce que la meilleure façon de trouver quelque chose, c'est de ne pas savoir ce qu'on cherche. Je regarde, j'ouvre des livres, et puis je vois, ça s'appelle Manuel de l'Oiseleur.
C'est un vieux livre, hein ?
C'est un vieux livre, oui. Il y a un oiseau en couverture.
L'art d'élever et d'instruire les oiseaux.
Oui, je vous laisse lire le titre entier.
L'art d'élever et instruire les oiseaux en cage, de les préserver et les guérir de toutes les maladies.
Voilà. Je l'ouvre au hasard. Ma main est plus intelligente que moi, parce que moi, je pense que je vais le lâcher dans les 2 secondes et je vais le remettre sur son étagère.
Au début, vous intéressez pas, a priori.
Non, mais le mot oiseleur, je trouve joli, parce que je pense que la poésie a quelque chose à faire avec les oiseaux. Et donc, je lis. Il s'ouvre sur cette page-là que j'ai sous les yeux. Le G. Étant jeune, on lui apprend facilement à parler. Il contrefait très bien le chien, le chat, la poule. Écoutez cette merveille. Les sanglots des enfants et le son de la trompette. Bon. À partir de ce moment, je sais que je prends ce livre. Et je sais... C'est étrange, mais je sais que je suis non pas devant un ouvrage technique, mais devant un ouvrage de poésie pure.
Alors que, a priori, c'est un ouvrage pour s'occuper des oiseaux.
Pour s'occuper des oiseaux.
Technique.
Et technique, et même pour s'en occuper un peu, pour les maintenir en prison. Mais pourquoi je dis que c'est un ouvrage de poésie? Je crois qu'on l'aura entendu. Cette phrase, elle est extraordinaire, cette phrase qui parle d'apprendre à parler à des oiseaux et des oiseaux qui ont déjà par nature la capacité d'imiter les sanglots des enfants et le son de la trompette. Moi, toute la journée qui a suivi, j'ai rêvé de ça. Les livres sont vraiment des gens, si je puis dire. Oui, c'est ça. Les livres sont des gens très étonnants, très très étonnants. Ils sont comme les gens qui tout d'un coup viennent et en une seconde vont réjouir toute votre journée et peut-être toute votre semaine et pourquoi pas votre vie entière. Et là, ce qu'on appelle la poésie, pour moi, depuis toujours, c'est quelque chose de très précis. C'est pas le flou, c'est pas le vague, c'est même pas le sentimental. C'est quelque chose, c'est une vision, une visée, une vision très pointue, très précise de la vie. C'est une phrase qui, tout d'un coup, ne cherchant pas la beauté, vous la donne à foison. Parce que c'est juste un fragment pur, du réel pur.
Mais c'est très difficile, ça. Ça a l'air si simple. Par exemple, vous utilisez souvent des formules très ramassées,
oui.
Éclatantes oui. Pratiquement, où on se dit, mais c'est ça. Mais c'est dur, je pense. Ça.
Alors ça, je ne sais pas vous expliquer comment ça vient, comment ça passe. Je ne sais pas expliquer.
On a l'impression que l'émerveillement, justement, puisqu'on parle oui. de la merveille, vient oui. se coller sur votre rétine et va directement dans votre stylo et sur votre papier.
Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça un peu. Il y a quelque chose comme une traversée du cerveau avant que le mental arrête les choses et les formes. Je vois une neige. Vous savez, ces neiges qui ne restent pas, ces neiges fraîches. À peine elles touchent le sol, elles disparaissent. Je la vois. D'ailleurs, à mon bureau, à la petite table d'écriture, je baisse la tête et j'écris que c'est une religieuse qui est morte le jour de sa prise d'habit. Et moi-même, je ne sais pas expliquer, mais on comprend ce que je dis. Je sais qu'on va comprendre ce que je dis. Et ce que j'ai vu, je le ressens comme ça. Mais où est-ce qu'elle était une seconde avant cette image, avant que je la trouve? Je ne sais pas.
Christian Bobin, la Bible. J'aimerais qu'on parle de ce texte, oui, qui est une bibliothèque en elle-même, la Bible.
Oui, bien sûr, oui.
Est-ce que c'est un livre de chevet pour vous ?
De chevet, c'est un livre de... Non, pas vraiment. C'est un livre de feuilletage. J'appellerais ça comme ça. C'est un livre qui s'égrène. Et il y en a plusieurs ici. Il y en a une qui est dans une pièce sur un lutrin, une assez grosse, qui est assez jolie, comme ça. Et de temps en temps, ma main tourne la page. La Bible est en permanence ouverte, ma main tourne la page et puis je regarde ce que la journée m'offre. La ligne, le vers, la phrase qui vient vers moi.
Et une phrase peut vous éblouir pour une journée,
ah oui.
Comme ah oui, ces oui. fleurs qui peuvent ah oui, oui. vous nourrir.
Ah oui, oui, avec des profondeurs incroyables. Et que j'aurais peut-être pas vu, justement, que j'aurais pas vu dans une lecture suivie, ou dans une lecture trop nourrie par trop de savoir, par trop de notes, par trop de théologie.
Mais on sait les histoires, justement, de la Bible. Comment dépoussiérer ce qu'on a appris au catéchisme, ce qu'on connaît par cœur, et être ébloui par la parole avec
Alors,
un grand P.
Alors, vous me réjouissez parce que vous m'amenez à parler d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Jean Grosjean. De lui, peut-être vos auditeurs pourraient chercher un livre qui s'appelle Le Messie, pourraient chercher aussi un livre qui s'appelle Samuel. À chaque fois, donc, ce sont des livres, ils font à peine une centaine de pages, c'est des livres qui sont guère plus lourds qu'un duvet de moineau dans la main. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé avec son expérience, sa science vivante, il est allé réveiller ses personnages, il les a sortis des vitraux où il commençait un peu à avoir froid, il les a secoués, il a passé la main dans leurs cheveux, et il les a renvoyés sur la route d'une lecture ensoleillée, très gaie, et du coup, ils sont là aujourd'hui. Ce sont des récits qui s'appuient sur les vraies personnes, sur les vrais faits.
Biblique, donc.
Biblique, mais où il a mis la paille de notation de jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, tout d'un coup, Samson va entendre un train passer au lointain. Vous voyez, ce sont des notations comme ça. Et tout est très vivant. Et on s'aperçoit, parce que c'est la pensée profonde de Jean Grosjean, c'est sa pensée de fond. Sa pensée, c'est que la mesure de l'éternel, c'est une vie humaine. C'est que toutes les vies, quelles qu'elles soient, à toutes les époques, contiennent la totalité de ce qu'elles pouvaient connaître et de ce qu'on peut connaître de l'éternel. Il n'y a pas à se soucier d'être contemporain du Christ parce que nous sommes ses contemporains. C'est pas il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Et ces histoires-là, elles soulèvent des puissances psychiques, mentales, spirituelles, qui sont à l'œuvre dans nos vies, aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de plus présent que cette lecture-là.
Christian Bobin, dans un livre que vous avez fait paraître il y a quelques années déjà, qui s'appelle « Ressuscité », vous écrivez « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait ». J'aime bien cette phrase-là. Il faut enlever des choses de soi pour
alors,
que Dieu s'approche ?
Oui, il en va de Dieu comme d'un animal très sauvage, comme d'une bête sauvage ou d'un enfant très farouche, d'un enfant... Vous savez comme sont les enfants gitans, avec leurs yeux qu'on dirait maquillés au charbon. C'est un nom qui est parfois encombrant. Il faut juste penser que c'est la pointe la plus fragile et la plus sûre, la plus fragile mais aussi impérissable de cette vie. C'est ça. Et cette pointe-là, cette crête de la vie que l'on nomme Dieu, je crois que ça a peur de nous. Je pense que ça a peur de nous.
Donc il y aurait une hypersensibilité chez Dieu.
Hypersensibilité. Hypersensibilité. Et d'ailleurs même, vous venez de trouver la clé de tout. Parce que quelqu'un qui reste, je dis qu'il reste parce qu'à la naissance, on est hypersensible. À la naissance, on est comme une goutte d'eau qu'on jette sur une plaque... chauffé à blanc, vous voyez, on est comme ça à la naissance, notre âme elle est comme ça, elle est comme du vif argent. Et quelqu'un qui reste ou qui retrouve son hypersensibilité, c'est quelqu'un qui en vérité a plus de connaissances du ciel que tous les théologiens. L'hypersensibilité c'est la racine de toute merveille et de toute vraie connaissance de la vie, c'est ce que je crois. Alors on parlait de pas s'encombrer, oui, quand je parlais d'être encombré, la phrase que vous avez citée, bien qu'elle soit la mienne, elle fait un peu la maligne, cette phrase. Aujourd'hui, je l'aimerais un tout petit peu moins. J'aime bien sa chute. C'est-à-dire que moins on a de choses, plus Dieu se rapproche pour voir ce qui se passe. Parce qu'il a moins de crainte d'être blessé. Parce qu'on est beaucoup plus, puissant que Dieu, en fait. C'est ça le
problème. Oui, mais c'est ça ce qui est incroyable. C'est ce que vous êtes en train de dire, que, que Dieu attendrait,
oui.
attendrait que nous soyons prêts,
c'est ça.
Pour qu'il se rapproche.
C'est ça. Mais c'est presque à pleurer, hein, ou à rire. C'est que on est beaucoup trop fort. On a beaucoup trop d'armature, on a beaucoup trop de défense, on a beaucoup trop de choses. Et on est écrasant. On est écrasant pour la vie. Et c'est pour ça que la vie nous déserte parfois, ou semble nous déserter. Comment pourrait-elle approcher si elle risque d'être piétinée? Vous voyez?
Donc pour vous, Dieu, c'est la vie qui se donne.
C'est ça. C'est la vie même. Et quand elle se donne, c'est pour toujours. J'ai l'intuition que ce qu'on appelle la mort, c'est juste une petite vitre à passer. Mais... Oui, pourquoi pourquoi je trouvais un peu que je faisais le malin avec ma phrase, que cette phrase faisait la maligne? Je la verrais comme ça aujourd'hui. Je me suis défait de choses, c'est ça que ça dit, cette phrase?
Oui, j'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait.
Alors, je garde la fin, mais la première moitié, ça fait un peu le malin, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est plutôt que la vie, les épreuves, nous débarrassent. Voyez, on n'a même pas trop à soucier de se dépouiller parce que de toute façon, les épreuves nous dépouillent.
Vous vouliez dire que dans la première partie de la phrase avant, c'était vous qui vouliez.
C'est ça, ça faisait trop volontaire.
Vous débarrasser.
Oui, c'est ça, ça faisait trop.
Comme Saint-Martin qui donne son manteau.
Voilà, oui, ça fait trop le. Oui, ça fait un tout petit peu le malin. Ça fait, il faut pas faire le malin. Non, il faut pas. C'est ce que je pense, c'est que. J'ai passé les deux fêtes de fin d'année, pas de cette année-là, à l'hôpital pour des problèmes de vertèbres, des problèmes pas très graves, douloureux, mais pas graves. Et donc j'ai passé la semaine aussi, une dizaine de jours comme ça. Et paralysé ou quasi paralysé dans un lit, ça devient très intéressant. Les choses commencent à devenir très intéressantes. Là, vous êtes simplifié pour de vrai, voyez ? Là, vous êtes vraiment comme dépouillé et simplifié. Et c'était quelque chose de pénible et de très intéressant. On m'avait amené quelques livres et la puissance des livres était incroyable. Mais la puissance des visites aussi, et la puissance des pensées, et la puissance du silence. Il y a toujours, dans les expériences, même fâcheuses, même coûteuses, même pénibles, elles ont toujours quelque chose à nous dire. Elles ont toujours quelque chose qu'il faut déchiffrer.
Christian Bobin, j'aimerais qu'on parle du Christ parce que vous en parlez dans plusieurs de vos livres, L'homme qui marche, Le Christ au coquelicot, et puis régulièrement vous en parlez. Le Christ, qu'est-ce qu'il vous fait découvrir de ce Dieu dont vous nous avez parlé, qui est la vie même, qui se donne éternellement à travers toute sa création, Fils incarné?
Moi je dirais ça comme ça, presque, je dirais un peu trivialement, moi j'aime tout ce gars-là, j'aime tout. Il sait qu'une foule c'est pas bon. Il sait que c'est pas le nombre qui fait la vérité, jamais le nombre. Aujourd'hui, il n'y a plus que le nombre, il n'y a plus que le chiffre. Vous avez remarqué, quand on parle de quelqu'un, par exemple d'un artiste ou d'un chanteur, on va dire, il a vendu tant de... Et alors ?
C'est pareil pour les livres. Hein.
Oui, c'est pareil pour les livres, c'est vrai. C'est pareil pour tout. On met en avant, parce que le nombre, c'est la puissance. Parce que si vous dites millions... Vous commencerez à être entendu, c'est misérable. Et moi, ce que j'aime chez le Christ, c'est qu'il sait que c'est toujours un à un, c'est toujours en face à face. Et j'aime sa rudesse vis-à-vis de sa mère, quand il l'envoie promener, quand sa mère un peu, tout d'un coup, oublie ce qu'elle... Et ça, c'est très, très humain, et ça authentifie, comment dire, ce qui lui est arrivé à cette femme. Elle oublie l'annonce qui lui a été faite. Et on passe notre temps à oublier les choses les plus importantes qui nous ont été confiées, ou les moments les plus où la vie s'est ouverte. Vous voyez, souvent on va oublier, on va se réinstaller. Et j'aime aussi qu'il l'envoie promener. J'aime aussi.
Donc c'est pas du tout un Christ mièvre gentil que vous décrivez là.
C'est une
figure assez iconoclaste finalement.
C'est un soldat ou capitaine, comment dire. C'est un capitaine qui prend les risques du soldat. C'est un guerrier, c'est le premier guerrier de l'invisible.
Mais guerrier,
oui.
Associer le guerrier au Christ, pour oui. Beaucoup de chrétiens qui nous entendent, ça va paraître...
Mais qu'ils ne s'inquiètent pas.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, qu'est-ce que je veux dire? Là, je veux dire juste, c'est une guerre intérieure. C'est la guerre que chacun mène contre soi-même, que nous menons contre nous-mêmes, contre notre inertie, contre notre somnambulisme, contre notre paresse, contre notre manque de cœur. C'est contre ça qu'il faut lutter, c'est pas contre autrui. Convaincre, c'est terrible, parce que c'est vaincre. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas amener quelqu'un aux évangiles, il faut pas amener quelqu'un au Christ, il faut pas... On n'a pas à faire une chose comme ça, vous voyez. Il faut essayer soi-même de faire entrer en soi toute cette gaieté profonde. C'est une gaieté guerrière, c'est un pas qui va, c'est une manière d'aller bien cadencée, bien rythmée. C'est une sorte de joie, mais terrible à vivre, sachant que dans cette vie, il y a la mort, et avalant le tout, et traversant le tout. C'est ça, si vous voulez, le Christ pour moi. C'est ce guerrier sans armes, qui ne cherche pas à vous convaincre de force, mais qui est tellement amoureux de la vie qu'il traverse tout, absolument tout, et qu'il est encore là aujourd'hui. Voilà.
Vous parliez de la mort, qu'est-ce qu'il vous apprend sur la mort?
Elle n'a pas le dernier mot. Il m'apprend qu'on ne va pas s'inquiéter tant que ça de la mort et de mourir. Ce qui est beaucoup plus inquiétant et ce qui devrait nous faire souci, c'est d'être à la hauteur de l'incroyable beauté de cette vie. Le reste, on verra. On verra. Il m'apprend ça. On verra. C'est une parole de confiance. C'est une parole très simple de confiance. C'est quelqu'un qui se tient dans la pénombre et qui me dit « Ne t'inquiète pas, tu verras. Ne t'inquiète pas. »
La croix du Christ, comment vous la vivez, vous la percevez, vous l'entendez? Ce paradoxe énorme que c'est en donnant complètement jusqu'au bout qu'on reçoit.
C'est quand même gonflé. Si on regarde ce qui se passe, c'est que jusqu'au bout, il prend soin, je parlais de sa mère, il prend soin de sa mère à ce moment-là, il la confie à un disciple. Il est tourné vers nous, il n'y a pas une goutte ni de sang, ni de sueur, ni un atome d'air qui ne soit pas redonné par lui. C'est tourné vers nous jusqu'à la fin. C'est le signé de la vérité, parce qu'il perd tout, tout, absolument tout, y compris la renommée, y compris tout, parce que quand il meurt, il n'est pas comme il est pour nous aujourd'hui, il n'est pas dans la gloire.
Il est abandonné complètement.
Il est abandonné. Comme c'est pour moi, le Christ, c'est celui qui a le plus vécu la vie. C'est celui qui a le plus vécu dans cette vie. C'est celui qui a le plus traversé toutes les épaisseurs de la vie. Beaucoup plus que tous les grands aventuriers, beaucoup plus que tous les grands philosophes, beaucoup plus que tous les sages. C'est celui qui a expérimenté, éprouvé dans sa pensée, dans son angoisse, dans sa chair et dans sa joie, toutes les dimensions de la vie. Donc, partout où on va, il y est déjà allé, donc il est là. C'est ça qui est extraordinaire.
Et alors la joie, parce que vous en parlez aussi?
Ben, la joie, c'est juste la puissance de vivre. C'est la puissance de vivre à son maximum. Alors aujourd'hui, si on dit ça, on va associer ça à des exploits sportifs ou à des choses un peu aberrantes souvent. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est l'amour incroyable de cette vie incroyable. C'est ça. C'est ça la joie. C'est entendre la voix d'une toute petite fille dans le remuement d'une pâquerette dans un pré, c'est faire s'échanger toutes choses, c'est comprendre que toutes choses s'échangent entre elles, c'est comprendre qu'il y a un jeu, qu'il y a un bruit de cour de récréation dessous tous les bruits du monde.
Merci à vous, Christian Aubin, de nous avoir accompagnés cette semaine. Je signale les deux derniers livres qui sont sortis récemment, « Un assassin comme neige » paru chez Gallimard, et puis « Éclat du solitaire », celui-là est paru chez Fata Morgana. Merci à vous.
Merci de m'avoir accueilli.